Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Ni chaud ni froid. C'est avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui Ludivine Brouet et son mari, manager Jean-Pierre Sarraud. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation à votre participation dans mon émission radio.
Merci à vous pour l'invitation.
Ludivine Brouet, vous êtes chanteuse.
Oui.
Danseuse et chorégraphe.
Tout à fait.
Vous étiez autrefois directrice de la troupe Isis.
Oui.
Et vous pouvez nous parler de la troupe Isis ?
En fait, la troupe Isis, c'était une troupe de jeunes danseuses que je formais moi-même.
Oui.
Donc, elles avaient de 12 ans à 25 ans. Et alors, elles m'accompagnaient lors de mes spectacles, pour les meilleurs de la troupe. Et on répétait deux fois semaine, en raison de 4 heures à chaque fois. Et ça partait du cabaret au French Cancan, à l'accompagnement de chanteurs aussi. Donc elles étaient vraiment sur un très large panel au niveau de la danse.
Et maintenant, vous avez encore des contacts ? Pourquoi ?
J'ai encore des contacts avec les filles, ça oui. Mais disons que c'est la vie qui a fait qu'à un moment, elles ont pris d'autres directions. J'ai pris d'autres directions aussi. Et à un moment, je travaillais, donc j'ai arrêté un petit peu la musique avant d'y revenir quand j'ai rencontré mon mari, en fait.
Et ça fait... C'est quelle année que vous avez...
Donc, la troupe Isis, c'était en 98 jusque 2000...
Ah, quand vous avez arrêté l'école et vous avez pris d'autres chemins.
Okay. Oui, tout à fait.
Vous avez suivi des cours de solfège.
Ça, quand j'étais à l'école, je suivais des cours de solfège privé et en académie. J'avais commencé un peu le piano, mais j'ai dû abandonner parce que j'ai trouvé du travail en tant qu'éducatrice spécialisée, puisque j'ai fait une formation d'éducatrice. Et en même temps, tant que j'étais à l'académie, j'en ai profité. J'ai fait aussi des cours de théâtre.
De théâtre. Et combien de temps ?
J'ai fait les 3 années d'adulte, en fait.
Vous êtes rodée, alors ?
On essaie. On se perfectionne toujours. De toute façon, on apprend toute sa vie. Quand on est artiste, on n'a jamais fini d'apprendre.
Oui. Bon, c'est la vie. On apprend tout le temps.
Tout à fait.
Quelles ont été vos motivations pour choisir d'apprendre le solfège et le théâtre ?
Alors, le solfège, c'était un rêve depuis toujours. Quand j'étais petite, je voulais jouer du piano, je voulais apprendre la musique. Ma maman ne voulait pas, parce que c'était d'abord l'école. Ouais. Et comme je faisais déjà de la danse, je ne pouvais pas faire deux activités, parce que j'étais une enfant qui avait... Quand je faisais trop d'activités, je n'arrivais pas à me canaliser, donc voilà, il fallait une seule activité. Et pareil pour le théâtre, c'était aussi un rêve de toujours... J'ai toujours fait un peu de théâtre à l'école, parce qu'on faisait du théâtre à l'école. Donc, j'ai fait la Castafiore quand j'étais plus jeune. On m'a même fait faire le singe dans un spectacle. Donc, tout ce qui était théâtre, je l'avais déjà en moi, mais je voulais plus développer, avoir plus de techniques, en fait.
Et vous avez fait des spectacles
De théâtre, ça m'a surtout servi, le théâtre, lorsque j'ai fait la comédie musicale La Fille du Diable.
Oui, parlons-en de La Fille du Diable, la comédie musicale. Parlez-nous de ce rôle théâtral, de votre ressenti par rapport au choix de ce personnage.
Ah ben déjà, j'ai été surprise qu'on me contacte. Donc c'est on m'a contacté lors d'un spectacle sur des podiums. Et je connaissais ce monsieur-là depuis longtemps. Il s'appelle Hervé Jacques, c'est un professeur de français, mais qui s'occupait de jeunes. Et il m'a dit, voilà, avec une autre chanteuse, on a écrit un spectacle qui s'appelle La Fille du Diable. Et comme Alexandra t'aime beaucoup, et elle trouve que t'as une belle voix, elle trouve que ton rôle pourrait très bien coller au rôle de la mort. Donc j'ai été insérée que le terme la mort, j'étais un petit peu au départ, pardon. Et puis il dit non, mais c'est pas une mort comme tu penses, c'est vraiment, en fait, c'était une mort jeune, sexy et tout ça, en fait. Donc c'était vraiment un rôle de composition aussi, puisqu'elle était très méchante, qui est complètement à l'opposé de mon caractère. Et pendant 6 mois, on a travaillé à Bruxelles pour mettre au point la comédie musicale. On répétait tous les dimanches. On nous avait prêté une école du côté d'Anderlecht. Et le spectacle a été fait, entre autres, à Uccle, dans la salle de spectacle du centre culturel. Et ça s'est super bien passé. Moi, j'ai d'excellents souvenirs de tout ça. C'était une excellente troupe. Il y avait même le cousin du chanteur d'opéra. J'ai oublié son nom. Jean-Pierre Edmond. Le ténor de l'opéra de Bruxelles.
J'en connais beaucoup.
Oh, t'en connais beaucoup, je sais. Ah, c'est pas grave, ça me reviendra.
Oui.
Ça me reviendra, c'est pas grave. Donc voilà, et c'était une équipe soudée. C'était très familial aussi.
Oui, ah, c'est
donc,
bien.
C'était très très familial. Au départ, on avait des chanteurs et 3 danseurs. Et puis, Au final, quand on a refait le spectacle, on avait une dizaine de danseurs qui participaient aussi, qui faisaient des chœurs et tout ça. Et c'était un super spectacle.
Et combien de séances?
Je crois qu'on a fait entre 4 et 6 séances. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était franchement enrichissant, quoi.
Nous allons passer à la chanson Dilemme. Parlez-nous de ce...
Je sens en moi mon cœur qui chavire, un je ne sais quoi au fond de moi qui me dit patience, qui me dit méfiance. Dois-je écouter cette petite voix ou résister comme à chaque fois? Je ne sais plus du tout quoi faire face à ce dilemme. Évidemment, on pourrait s'envoler. Loin d'ici, oublier qui je suis, recommencer ma vie ou continuer cette voie tracée. Mon cœur me dit oui, ma tête me dit non. Certains me disent fonce, d'autres disent raison. Faut-il encore croire en ma destinée? Tout abandonné au fond d'un grenier, je ne sais plus du tout quoi faire face à ce dilemme. Évidemment, on pourrait s'envoler là-haut dans l'immensité et finir en partant là-bas.
Ah bon, et alors c'est comme ça que j'ai monté mon premier show de revue parisienne qu'on a appelé Choc Showbiz, avec 6 danseuses, 2 danseurs, il y avait 5 chanteurs dedans, dont un animateur, il y avait un orchestre de 17 musiciens derrière. C'était vraiment la grosse artillerie, quoi, oui. Je veux dire. Et bon, ça a commencé à tourner.
Et tu as fait la première sous chapiteau.
Oui, on a fait la première de ce spectacle-là sous son chapiteau à Bouglione, donc, qui se trouvait sur la place Flagey à Bruxelles. On a fait 4-5 spectacles là-bas. Et ça a commencé à tourner et lui m'a aidé pour moi à ouvrir, il m'a ouvert les portes en France. Et bon, c'est comme ça que l'affaire a pris un essor, professionnel. Oui. Et on a tourné, tout partout déjà avec ce spectacle-là. Voilà, ça sont les origines de pourquoi Choc Showbiz est venu au monde. Et le nom de Choc Showbiz, c'est un peu comique parce que bon, de premier métier, je suis pâtissier chocolatier, je l'étais. Et bon, on a mélangé choc.
Chocolat.
Show, spectacle, hein,
et business, pour, business. Pour le business.
Pour le business. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et alors, bon, voilà. J'ai fait énormément de kilomètres avec ce spectacle-là.
Vous êtes très content.
Ah oui, très content. On était à Cannes, on était tout partout, vraiment.
Parcouru
la France et Navarre.
J'ai plus besoin de GPS.
vous pouvez nous raconter aux auditeurs comment vous êtes rencontrés Ludivine et vous, monsieur Jean-Pierre Sarraud?
Oui, parfaitement. C'est-à-dire que j'ai un studio depuis pas mal de temps ici à Blaton. Et j'enregistrais à l'époque des émissions pour une radio locale ici dans le coin, que je ne citerai pas. Et bon, un beau jour, Ludivine a débarqué chez moi, fait une interview.
Avec ma maman.
Avec sa maman, donc. Et j'ai dit, tiens, elle chante pas mal du tout. Et bon, mais c'est resté un petit peu dans le vague comme ça. Sous le feu de l'action, je vais dire, bon...
C'était en 2004.
Et puis, en 2004,
Et puis en 2005, je suis revenu.
J'ai revu Ludivine.
Un an après.
Disons quelques mois après.
En 2005.
En 2005. Et alors, je l'ai écouté, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as cassé ta voix. Il y avait plein de défauts. Et alors elle me dit, ben écoute, je prends des cours avec un monsieur. Et je dis, mais qui c'est ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un démolisseur de carrosserie ou quoi? Et bon, sans faire d'allusion, quoi. Et alors elle me dit, ben écoute, il fume en me donnant les cours. Alors,
Je suis asthmatique. Donc,
Je lui dis, écoute, si tu veux, je crois que tu vaux la peine de mieux que ça. Je vais bien te reprendre en main. Mais pour ça, bon, il faudra quand même venir jusque chez moi. Et comme Ludivine travaillait officiellement, donc pas loin de chez moi, donc à Péroué, qui est le village d'à côté. Elle repassait et alors je l'ai fait travailler. Et bon, ben, il est arrivé que. Un beau jour, on a travaillé un peu plus qu'il ne fallait et qu'elle est devenue Madame Sarraud.
Et tu m'as fait rencontrer Aga aussi à cette époque.
Oui, c'est vrai que je lui avais fait rencontrer une amie qui s'appelle Aga Winska. Qui a été, pour rappel, la première lauréate chant du Reine Élisabeth. Et Aga, j'ai dit, dis-moi, fais-moi plaisir, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Ludivine? Et elle me dit, il y a du travail. Oui, ça, je m'en doutais bien. Et alors, elle m'a donné quelques conseils. Et alors, on a travaillé dans cette direction-là. Et bon, ben, on est arrivé à un super résultat. Je veux dire, bon, qui va encore s'améliorer
ça
par après, parce que bon, avec mes connaissances, elle a pu rencontrer aussi d'autres personnes, d'autres grands professionnels.
Coach vocal aussi, que oui. Vous avez parlé de.
Voilà.
Vous pouvez dire.
Eh bien, en fait, depuis le Covid, j'ai eu la chance, en tant qu'artiste, comme au Covid, on ne pouvait plus rien faire. On était plus souvent sur les réseaux sociaux. Et on essayait de faire parler de soi de cette façon-là. C'était la meilleure façon qu'on avait. Et j'ai rencontré Pierre-Yves Duchesne, qui est donc le coach de Lara Fabian, Amir, Agustin Galiana. Et pendant le Covid, il a donné, franchement, de son temps pour les artistes. Il nous faisait faire des exercices. C'était la PIO, ça s'appelait la PIO. Mm-hmm. Donc, c'était tous les dimanches. On avait une heure de cours. C'était gratuit, c'était en ligne avec lui. Et grâce à ça, j'ai déjà évolué. Et puis après, j'ai pris des cours plus particuliers avec lui. J'ai continué à travailler. Il est devenu ami avec nous depuis. Et ça, on en parlera peut-être par après. Mais du coup, ici, depuis un an, il a créé la PIFamily. Et Shock Showbiz et la PIFamily sont associés pour beaucoup de projets. Mais ça, on en parlera juste après.
Nous allons passer aux autres.
Ne me reproche, s'il te plaît, d'aimer différemment.
parce que je fais du Mylène depuis des années. Et quand j'étais étudiante, j'étais des sosies officielles en Belgique de Mylène, en fait, quand j'étais plus jeune.
Et vous avez eu des contacts avec elle?
Non. Par contre, avec Universal Music de l'époque, oui, puisqu'on avait organisé un concours. Et là, j'étais arrivée deuxième. Troisième. Deuxième, c'était Magali. Premier, c'était Bruno. Et c'est All Star. Et moi, j'étais troisième. Et on avait eu beaucoup de cadeaux venant d'Universal Music, justement. C'était pour la sortie de l'album Les Mots. Et ça s'était fait à Bruxelles, dans une salle assez connue.
Vous êtes allé la voir?
Ah oui, oui. Ah bah oui, ah bah oui, ça oui. Quand elle avait fait le Millennium Tour, j'ai vu, je crois, 4 ou 5 fois le Millennium Tour. Puis je suis allée la voir à la Défense Arena, quand elle a fait son résidentiel. Et je devais aller à Lille, malheureusement, je n'ai pas, j'ai pas su, j'étais malade. Du coup, ben, j'ai la place, c'est quelqu'un d'autre qui est allé à ma place, je l'ai revendue tout simplement. Mais pourquoi pas, ici, elle va refaire des dates. Hein, donc, mais je pense qu'elles sont déjà sold out, c'est ça le malheureux. C'est pas grave, je la regarderai en DVD avec une bonne situation.
Vous pouvez lui écrire.
Je ne suis pas quelqu'un qui embête les artistes, j'aime pas. Moi j'estime qu'on a sa vie privée, étant moi-même artiste, donc moi je respecte trop sa vie privée pour l'ennuyer. Je lui ai écrit, hein.
Oui.
Je l'ai fait comme tout le monde quand j'étais plus jeune, elle m'a répondu, j'ai eu une photo dédicacée de sa part, mais ça a été mon plus grand cadeau, je l'ai toujours d'ailleurs, je la tiens bien, mais voilà quoi, c'est un plaisir et c'est chouette de voir quand même qu'un artiste, même s'il ne répond pas tout de suite, il répond quand même quoi.
Parlons-en, par exemple, toute chanteuse a une solution pour entretenir la voix. Comment vous préconisez?
Déjà, pas crier. C'est très important, oui. Le plus possible. Toujours préparer sa voix en faisant des vocalises et des échauffements vocaux. Travailler sa respiration. Ne pas chanter n'importe quoi parce que toutes les chansons ne vous conviennent pas. Donc, bien choisir en fonction de sa tessiture vocale. Et ne pas faire de bêtises et aller trouver un bon coach vocal, ne pas écouter les connards qui existent, parce qu'il y en a énormément et qui abîment la voix. Je suis passée par là, je peux en parler, ça a failli détruire ma voix, donc maintenant il faut faire très 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 attention. Moi-même maintenant je suis les cours pour être coach vocal moi-même avec Pierre-Yves, donc pour la méthode Prometheus, et je suis certifiée et tout, donc si quelqu'un a besoin d'un coach vocal, il peut me contacter.
Vous avez une corde à votre arc?
C'est une corde de plus à mon arc.
Nous allons passer à la rubrique mémographie. C'est en fait c'est une rubrique, c'est une chanson qui a marqué un passage de votre vie. Vous avez choisi la chanson Plus grandir de Mylène Farmer. Pourquoi cette chanson?
Pourquoi cette chanson? Parce que quand j'étais enfant, j'étais assez petite. Je ne suis pas très grande maintenant, vous allez me dire. Ça n'a pas trop changé. Mais j'avais pas cette chanson, je trouvais qu'elle était géniale. Bon, je l'avais compris avec le spectre de mon âge de l'époque, hein, bien sûr, à 6-8 ans, on ne comprend pas la chanson comme on la comprend. Quand on la relit à l'âge adulte, qu'on comprend ce qu'elle raconte réellement, bien entendu. Mais je me retrouvais dans cette chanson et j'adorais l'univers de Mylène Farmer déjà à l'époque. Je suis fan depuis les débuts et cette chanson, elle m'avait marqué parce que le clip était quand même assez, pour l'époque, pour les années 80, c'était un clip où on la voyait vieillir tout en restant. On voyait qu'elle pouvait rester en forme, elle avait son nom, c'est tout, mais qu'elle vieillissait, c'était assez simple.
Petit rien, petit bout de rien du tout. M'a mis tout sang dessus, dessous.
Automatiquement, c'est vrai que je suis attirée par ces artistes-là, mais ça ne m'empêche pas d'aimer des artistes comme la femme du président français, ou comme Rose, parce que j'aime aussi ce qu'elle fait, Rose. J'aime bien aussi les chansons à texte, j'adore Renaud. J'adore Renaud. Moi, dans les chansons, ce que je regarde en premier, c'est toujours le texte de la chanson.
Du fond.
D'abord le fond, et le reste vient après, en fait. C'est toujours. Je suis amoureuse des mots. Donc automatiquement, moi, je tombe amoureuse d'un texte avant de tomber vraiment amoureuse de l'interprète ou de la chanson, quoi. Donc si
c'est
le texte me permet.
Je veux dire, et voilà. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a des chansons.
Ben, disons qu'il y a certaines chanteuses actuelles que les jeunes aiment,
ouais, ouais.
Que j'ai écouté, hein, pour faire plaisir par exemple à ma nièce, mais ça passe pas. Akamura et tout ça, non, ça passe pas. C'est pas de la langue française.
Les chansons de jeunes, vous aimez pas trop.
Si, j'aime le rap, j'adore le rap.
Le rap.
J'adore le rap, j'adore le slam, j'adore le Grand Corps Malade.
Mmh.
J'aimais bien Diams et tout ça. Il y a une petite jeune qui monte ici, mais pour le moment elle ne fait qu'interpréter, elle n'a pas encore ses chansons, mmh. Mais qui promet aussi. J'aime ce qu'elle fait aussi, Malo. Mais des textes qui ne veulent rien dire, mmh, non.
Oui.
Big Flo et Oli, j'aime bien leurs textes. J'écouterai pas ça en continu, mais j'aime bien ce qu'ils écrivent.
Ils veulent dire quelque chose.
Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose derrière.
Oui, oui.
Mais des chansons qui ne veulent absolument rien dire, ça ne m'intéresse pas, quoi. Je trouve ça vide de sens. Et en plus,
c'est... Nous allons parler de vos projets.
Voilà. J'ai besoin d'un blues pour tout oublier. Besoin d'un blues pour me faire rêver, chasser mes idées noires, chanter mon désespoir. J'ai besoin d'un blues juste pour ce soir. Oui, j'ai le blues, encore la même histoire. C'est comme un j'ai besoin d'un blues pour tout oublier. Besoin d'un blues pour me faire rêver. Chasser mes idées noires, chanter mon désespoir. J'ai besoin. J'ai envie d'y croire, noyer mon cafard. Éteins la radio, débranche ta sono. Je me sens bien dans ma peau. Enfin, @gmail.com. Alors, on est sur Instagram, mmh. On est sur Facebook. On a un site internet, donc c'est www.chocshowbiz.com aussi. Je vais créer aussi une page. J'ai une page TikTok que je n'utilise pas encore beaucoup, mmh. Mais je m'y mets un petit peu à la fois. Instagram, maintenant il y a le mien et il y a celui de Chocshowbiz. Donc un petit peu à la fois, mais toutes les informations sont dessus. Et ce qui est bien, c'est que sur Facebook, il y a plusieurs pages. Donc il y a bien sûr nos pages privées, mais il y a aussi la page.
Parlez-nous de votre comédie musicale, l'incroyable histoire de Bernie Ligonodon.
Ah, eh bien, en fait, ici à Bernissart, c'est l'endroit où on a trouvé la plus grande concentration d'iguanodons, il faut le savoir. La plupart des iguanodons qu'il y a dans les musées viennent d'ici, de Bernissart, dont ceux de Bruxelles. Ici à Bernissart, on a aussi un petit musée où il y en a un. On nous en a quand même rendu un, finalement. Et quand j'ai rencontré Jean-Pierre, il m'a raconté l'histoire un petit peu. J'ai trouvé ça sympa et il m'a demandé d'écrire une histoire pour les enfants. Donc, moi, j'ai écrit un scénario où des enfants vont avec leur maman au musée, mmh. Ils se retrouvent enfermés et ils rencontrent Bernie l'iguanodon, qui est une femelle, qui a une petite fille qui s'appelle Mini Bernie. Et Bernie leur raconte son histoire. Donc, il parle de Jules Créteur, qui est un des mineurs qui les a découverts. Donc, il y a Jules qui chante dans le spectacle, il apparaît et il disparaît en fonction. Vous avez les dinosaures de tous les pays où on a retrouvé des iguanodons. Donc, vous avez une Espagnole, un Anglais, enfin un Écossais, pardon, plus exactement, un Américain, un Français, un Allemand, j'en oublie un asiatique et un arabe.
C'est cosmopolite.
Ah ben en fait, on a trouvé des iguanodons dans le monde entier. Hein. Il faut pas croire, hein. Il y en a dans le monde entier. Hein. Et chaque dinosaure est déguisé. Donc, il a bien sûr la mascotte. Et chaque mascotte a un costume représentatif du pays. C'est ça qui est chouette. Et à un moment, il y a une parade. Oui. Et dans cette parade, il y a un extrait musical qui représente bien le pays. Donc, ils viennent d'un droit au French Cancan avec le français, avec une chanson sur la bière pour justement l'allemand. Enfin, c'est un petit peu caricatural, mais c'est pour faire rire les enfants, il ne faut pas oublier. Et c'est un spectacle super interactif parce qu'il y a un méchant dedans qui est le T-Rex, qui veut détruire la Terre, qui veut détruire les hommes puisqu'ils ont disparu, il faut que les hommes disparaissent. Il a réussi à circonvenir des petits adolescents qui s'appellent les orduriers qui détruisent la planète. Et c'est une façon de conscientiser les enfants sur la protection de la planète, l'acceptation de la différence aussi, puisque à un moment, le T-Rex à la fin, il dit ben, on ne m'aime pas, je suis méchant parce qu'on me trouve différent et tout ça, alors que je ne suis pas méchant dans le fond. Et voilà quoi. Il y a plusieurs thématiques abordées dans le spectacle. Donc la préservation de la nature, la découverte, l'histoire réelle de la découverte des iguanodons et l'acceptation de la différence. Et ça, c'est un spectacle qui a tourné pas mal du tout. C'était avec des jeunes, des amateurs, des enfants, des personnes handicapées. Et ici, on est occupé à remanier un petit peu le scénario pour la remettre un petit peu plus au goût du jour, parce que ça date déjà de quelques années maintenant. Raccourcir un petit peu le spectacle.
Moderniser.
Voilà, refaire certaines musiques qui ne nous plaisaient pas trop. Je trouvais que la chanson du méchant n'était pas assez hard, donc on va la rendre plus hard. Et peut-être ajouter d'autres chansons, voilà. Et ça, on va refaire au bout du jour. Et de cette histoire-là est partie une autre histoire qui s'appelle Le Noël des dinosaures, qui est une plus petite histoire, mais qui a bien tourné aussi en France et tout ça, parce que les Français, les enfants, ils adorent les histoires de dinosaures. Et là, c'était le premier dinosaure du monde, le premier Noël des dinosaures. Voilà.
Bah, c'est bien, vous êtes sur toutes les formes.
Je vais pas m'en priver, j'adore chanter avec lui. Quand on est artiste, on doit savoir tout faire.
Bah, je vous remercie à vous deux.
Merci
vous
à vous.
Vous avez quelque chose à rajouter
Non, pas spécialement.
Merci pour cet échange.
Espérons peut-être, une fois retourné, faire un concert à Libramont.
Pourquoi pas, puisque Jean-Pierre, il y avait plusieurs années, il y est allé. Oui, ce serait l'occasion. Hein, voilà.
J'y suis déjà allé plusieurs fois. Ben, ça fait pas mal d'années.
Pourquoi pas.
C'est vrai que ça passe très très vite.
Je vous souhaite une bonne continuation dans vos parcours.
Merci.
Et j'invite les auditeurs à écouter les podcasts où vous voulez, quand vous voulez, et sont disponibles sur le site officiel de Radio Sud Chine. Merci à vous.
Merci à vous en tout cas, c'est très gentil. Merci.